Comme nous arrivons cet après-midi avec le spectacle de Noël, je me suis dit que c'était bien pendant ces quelques dimanches, aujourd'hui, la semaine prochaine, de parler de Noël. Ça semble à propos malgré tout. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant, au travers d'un thème tout simple qui va apparaître. Vient-il ou pas? Ça arrive. Que signifie Noël pour vous? C'est une question. C'est quoi? Ça peut être ça. Quoi d'autre? Vous êtes aidé avec l'image à l'écran? Non, vous n'êtes plus aidé. On ne vous fait pas de cadeau à vous? Je ne vous crois pas. Vous allez peut-être en faire en tous les cas. Ça aussi, c'est un moment agréable. Et puis, ça signifie aussi un petit peu la fête, hein, quand même. On est content de voir là aussi quand on peut rassembler la famille, quand les uns les autres peuvent se retrouver ensemble. C'est quand même un moment agréable, cela aussi. Et puis, ça devrait être un moment de paix, un moment joyeux, un moment serein. On sait très bien que ce ne sera pas pareil pour tout le monde, évidemment, parce qu'il y a des situations dans le monde où les choses vont mal, et on sait très bien que ça aura peut-être du mal à être un Noël heureux. Mais voilà ce que peut signifier Noël pour beaucoup d'entre nous. On va lire quelques versets tirés du prophète Ésaïe, et nous reviendrons sur cette signification de Noël en plusieurs étapes, mais au moins pour cette fois-ci, dans les grandes lignes, au travers de deux textes prophétiques. Ésaïe chapitre 8, nous lirons à partir du verset 23. Ésaïe chapitre 8 et verset 23. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Amen. Et puis dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 1er, ce sera notre sujet de réflexion, le chapitre 40. Nous allons le fractionner en trois parties distinctes. Tout cela contenu dans les 11 premiers versets, mais pour l'instant, nous ne lisons que les versets 1 et 2. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Amen. Consolez mon peuple. Parlez à son cœur et dites-lui que sa servitude est finie. En pensant à Noël, j'ai eu l'impression que c'était le texte qui me l'expliquait le mieux, Noël. La servitude est finie, l'esclavage est terminé, ça signifie qu'on s'en va vers la liberté, on s'en va vers la délivrance. Alors, cette prophétie d'Ésaïe vient de loin, bien évidemment, et si vous connaissez le contexte de ce temps-là, vous vous souviendrez qu'une partie du peuple d'Israël, pour 10 tribus, ont été détruits, anéantis et transportés en esclavage, ce qui n'est qu'un prélude de ce qui arrivera à ces deux tribus restantes que l'on appellera les tribus de Juda, qui elles aussi, à un moment donné, vont être exterminées et vont être éparpillées sur la terre. Mais il y a eu un grand moment d'angoisse à cette période-là, du temps d'Ésaïe et dans le siècle qui a suivi. Le peuple va connaître des invasions successives, les Assyriens, les Babyloniens vont faire main basse sur le territoire. Et qu'est-ce que cela va produire? Grande souffrance malheur, guerre et puis exil. Le peuple d'Israël va être transporté, va être déporté, si vous voulez, transporté en exil et va se retrouver bien loin de la maison. Et voici que Ésaïe, avant que les choses n'arrivent, alors qu'on a le sentiment que ça brûle, le torchon brûle, on est presque à l'accomplissement d'un terrible malheur, Ésaïe prophétise déjà la délivrance. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que très souvent, lui prévoit et il annonce ce qui va arriver bientôt comme une calamité, mais en même temps qu'il nous dit ce qui est en train d'arriver, il promet souvent d'ores et déjà la délivrance et la liberté. Et ça, c'est miraculeux. Il n'y a que Dieu qui pouvait agir et parler de cette manière-là. Et voici pourquoi cette prophétie venant de loin a été une prophétie qui a traversé les siècles et qui, pour nous, s'est incarnée à la naissance de Jésus-Christ. Parce que ce qui s'est accompli d'une manière très localisée, si vous voulez, très précise pour le peuple d'Israël, devait être une promesse qui devait s'accomplir pour le monde entier. Et la naissance de Jésus, d'ailleurs, on l'a chanté tout à l'heure, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », la naissance de Jésus et c'est simplement l'accomplissement de cette vérité. Le salut vient, la délivrance vient, l'esclavage est terminé, sa servitude est finie, la délivrance est apportée au peuple. Et voici ce que nous pouvons comprendre derrière la signification de Noël. Lorsque Jésus naît, le Dieu offre au monde la liberté. Lorsque Jésus vient au monde, Dieu offre au monde la délivrance. Et Dieu dit à tous les êtres humains que sa servitude est terminée et que la délivrance est à portée de main. Alors je voulais qu'on s'arrête un moment sur cette vérité-là parce que ça semble être comme une voix qui crie dans le désert. Quand on a lu dans Ésaïe au chapitre 8, « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Ça, ça a été dit par Ésaïe. Et qui d'autre a repris ce passage ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans le Nouveau Testament ? Non ? À quel moment ce texte a été à nouveau cité ? Ouais ? Dites-moi. Regardez. Pardon ? Allez-y, j'entends pas. Matthieu 4, c'est-à-dire quoi ? À la naissance de Jésus ? Ouais, à la naissance de Jésus, ça a été dit ? Tu penses ou t'es sûr ? Ouais, c'est ça. Hein. C'est peut-être pas dans Matthieu, c'est plutôt dans Luc. Mais c'est ça, c'est à la naissance de Jésus. Qu'est-ce qu'il est dit ? Exactement cette prophétie. C'est-à-dire que quand Ésaïe prophétise, il s'adresse au peuple d'Israël en disant « D'ici un siècle à peu près, vous reviendrez dans le pays et votre esclavage, votre servitude sera terminée. » Un peu plus de 70 ans d'esclavage, transporté à Babylone en exil et on a pleuré au bord du fleuve et on s'est lamenté, même nos ennemis nous demandaient des chants mais on n'avait pas envie de chanter. On s'est souvenu de nos malheurs sur les bords des fleuves de Babylone. Nous avions suspendu nos harpes et nous pleurions. C'est ce que diront ces captifs. Mais quelque temps plus tard, quand ils reviendront à Jérusalem, quand ils retourneront en Israël, ils rappelleront cette vérité. On a pleuré le soir, mais on s'est réjoui le matin. Ah, on s'est lamenté bien souvent, mais maintenant, c'est le temps de se réjouir. Et c'est exactement cette prophétie qui va être reprise à l'annonce de la venue de Jésus. Lorsque Jésus vient au monde, c'est ce texte qui est repris. Le pays qui marchait dans la vallée de l'ombre de la mort verra resplendir une grande lumière. À tous ceux qui étaient assis dans cette ombre, dans cette vallée de la mort, ils verront resplendir une étoile. C'est souvent ce que l'on a imagé à la naissance de Jésus, cette étoile qui a conduit les mages jusque là où se trouvait l'enfant qui venait de naître. Mais vous comprenez que la naissance de Jésus, c'est un jaillissement. C'est littéralement une explosion de joie. On pourrait parler de feu d'artifice, certainement, En tous les cas, dans le ciel, il s'est passé des choses. Et sur la terre, il s'est passé des choses. Vous vous souvenez certainement, on en a parlé il y a peu, de ce qui s'est produit quand les parents, quand Marie, sa mère, et quand Joseph, l'époux de Marie, viennent au temple avec l'enfant qui n'a que 8 jours pour la circoncision. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez un homme, un vieux monsieur, Siméon. Qu'est-ce qu'il fait ? Poussé par l'esprit, il vient au temple. Et quand il... dans le temple, il y avait un monde fou. Hein. Quand il voit ce couple avec cet enfant, poussé par l'esprit, il va au devant de ce couple, il prend l'enfant dans ses bras et il rend grâce à Dieu en proclamant haut et fort que cet enfant, c'est le Messie, c'est le libérateur, c'est lui l'envoyé de Dieu. Pratiquement dans le même temps, une autre personne, une femme, Anne, 84 ans, qui passe son temps au sanctuaire parce qu'elle a consacré sa vie à Dieu. Elle aussi, elle entend parler de ce Jésus et elle en parle à tout le monde. Elle comprend que c'est la délivrance que Dieu a donnée aux hommes. Comprenez qu'il y a de l'effervescence quand même. Il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'interrogations. Mais je reste sur cette idée de cette faveur incroyable que Dieu a révélé, que Dieu a accompli. J'ai encore une image qui me vient à l'esprit et je pense que elle peut vous parler les uns les autres. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, on est presque au soir du ministère de Jésus. Il n'a que 33 ans, mais dans peu de temps, il va être arrêté et puis il va être crucifié. Et gloire à Dieu, il ressuscitera d'entre les morts. Et maintenant, il est au ciel. C'est votre avocat là-haut dans le ciel. C'est lui qui plaide votre cause. Mais on se souviendra que quand il va pour la dernière fois entrer dans la ville de Jérusalem, il a envoyé ses disciples devant lui avec quelques recommandations. Allez, vous trouverez un ânon attaché, prenez-le et amenez-le-moi. Et il va rentrer, il va prendre le chemin, il va prendre la route pour entrer dans Jérusalem assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est prophétique, c'est prophétique. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où il entre ? Dans la ville de Jérusalem, eh bien le texte le dit, Luc chapitre 19 verset 37, lorsqu'il approchait déjà de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus et ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel » et gloire dans les lieux très hauts. Dans l'évangile de Marc, c'est un petit peu la même pensée qui est reprise avec une petite nuance. Marc chapitre 11, verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Hosanna, sauve, sauve de grâce, sauve. Quand Jésus entre dans la ville de Jérusalem, on ne s'est pas trompé. Hein. Pas plus que le ciel se serait trompé à la naissance de Jésus. Il nous est dit que les bergers, les mages ont suivi l'étoile, les bergers ont entendu une voix venant du ciel et ils ont entendu une chorale divine et céleste chanter « Paix sur la terre aux hommes qui l'agréent, gloire dans les lieux très hauts ». La puissance de Dieu s'est manifestée à la naissance de Jésus. Il s'est passé quelque chose. Vous comprenez qu'une voix a crié dans le désert, « Préparez, préparez le chemin du Seigneur ». Mais je crois que cette voix peut faire écho dans notre cœur encore aujourd'hui et elle peut nous rappeler la bonté et la fidélité de Dieu. Dans le Ésaïe 40, c'est le verset 3 qui dit cela. « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides, une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Une voix crie ce matin encore. Ça peut faire écho dans votre cœur, ça devrait faire écho dans votre cœur. Que signifie Noël ? Réduire Noël à un bout de foie gras ou une coupe de champagne ou un cadeau ? ou une réunion de famille, ce serait dommage. C'est tout ça, mais c'est pas que ça. Avant tout, Noël, c'est la délivrance. Avant tout, Noël, c'est la vraie liberté. Avant tout, Noël, c'est le salut de l'âme. Avant tout, Noël, c'est la perspective de l'éternité. Ta servitude est finie. Ton esclavage est terminé. Alors aujourd'hui, Noël, c'est une voix qui doit et qui peut retentir dans notre cœur. La voix de la consolation, c'est première chose qui me vient à l'esprit dans ces quelques versets que je viens de lire avec vous, du verset 1er au verset 5. Vous avez remarqué de quelle manière on en parlera. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Parlez-lui. J'aime beaucoup cette notion d'un Dieu de consolation et d'un Dieu de pardon. Vous comprenez que réconforter, Dieu le fait très bien. Dieu le fait très bien réconforter. Il sait, il a les mots, il sait comment le faire, il sait comment le dire. Et quand il s'adresse à ceux qui ont déjà tout perdu à ce moment-là et qui n'ont aucune perspective, n'ont aucun avenir, mais il a besoin de trouver les mots pour les convaincre. Pas si simple. Ben, les mots, il les a. Il sait exactement ce qu'il faut dire à ce moment-là. Et je pense que Dieu prend le temps d'expliquer où est la faute. Quand je lis pour vous, son iniquité est expiée, elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une explication. Dans la loi, il était dit que si quelqu'un commettait une faute, il devait rendre au double pour expier la faute. Et quelque part, Dieu dit au peuple, vous avez péché. Et il faut payer pour le péché. Hein. Ce serait facile ou ce serait totalement inconscient de se dire, on peut faire ce qu'on veut, de toute façon, il n'y a pas de conséquences. Vous n'avez jamais dit ça. Hein. Dans tous les aspects de la vie, on ne peut pas se permettre de dire ça. On ne va pas s'amuser à dire, oh, c'est pas grave, on fait exactement ce qu'on veut. De toute façon, il n'y a pas de préjudice, ça n'existe pas. Il y a forcément un préjudice, il y a forcément quelque chose. Eh bien, la désobéissance d'avec Dieu a soumis l'homme à énormément de séquelles, de préjudices. Mais voilà, la bonne nouvelle ce matin, c'est que la faute a été expiée. Tu as payé. Suffisamment payé, la faute a été expiée. Mais comprenez bien que dans l'idée de Dieu, bien évidemment, l'homme était sans espoir, sans espérance. Et Dieu sait très bien que quelqu'un ne vit pas sans espoir. On ne vit pas sans espérance. On a besoin d'une espérance. On a besoin d'être encouragé. On a besoin de tout cela. Sinon, on ne peut pas vivre. C'est totalement impossible. Dieu comprend et il sait ce que signifie la servitude. On peut parler de malheur, on peut parler de difficulté, on peut parler de tourment, on peut parler de peine, évidemment. Il comprend tout cela. Mais Dieu ne permettra jamais, frères et sœurs, que l'épreuve aille trop loin. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Est-ce que vous connaissez la suite de ce verset ? Peut-être vous le connaissez par cœur. La suite est importante. Il est dit... À la suite de ces mots, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et dans tout le contexte, on revient un petit peu avant, on va aller un petit peu après, aucune épreuve, tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune épreuve ne nous survienne qu'elle ne soit humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, Dieu vous donnera toujours la force d'y résister. Et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Vous entendez ? Il préparera toujours une porte de secours, une porte, une issue de secours, une porte de sortie pour que vous en soyez vainqueur. Ça, c'est la consolation que Dieu promet et c'est ce que Jésus est venu accomplir en naissant. Noël, c'est déjà ça. Noël, c'est la liberté. Noël, c'est la délivrance. J'aimerais vous dire que Dieu n'abandonne jamais. Peut-être que quelquefois, vous vous êtes obstiné à certaines choses, et puis, de guerre lasse, vous vous êtes dit, bon, j'abandonne, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas, ce n'est pas possible, j'arrête, j'abandonne. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu n'abandonne jamais. Vous entendez ? Dieu n'abandonne jamais. Vous êtes en peine, vous êtes à la lutte, vous êtes dans les difficultés, Dieu n'abandonnera jamais. Et il fait même mieux, on l'a lu ensemble, aplanissez, tracez une route pour notre Dieu, que les vallées soient comblées, que les montagnes et les collines soient rabotées, que la route soit plane. Ça aussi, ça ne vous rappelle pas un texte du Nouveau Testament ? Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, moi je suis une voix qui crie dans le désert. Et qu'est-ce qu'elle criait cette voix ? Ce texte. Aplanissez les sentiers, comblez les fossés, rabaissez les collines. Finalement, on se dit évidemment que s'il fallait marcher 10, 20, 30 kilomètres, mais il vaudrait mieux que la route soit plate plutôt qu'elle soit comme ça et comme ça. C'est logique. Eh bien, la marche avec Dieu, elle ne sera jamais plate. Elle peut être plane quand même, dans ce sens que ça peut grimper toujours. Mais l'important, c'est qu'on ne soit pas accidenté sur ce parcours-là, au-delà de ce que l'on est capable de supporter. Et Dieu va combler les fossés, et Dieu va raboter les montagnes, et Dieu va faire en sorte que la vie devienne supportable, et que la vie soit toute à sa gloire, que Dieu puisse se glorifier. La naissance de Jésus, c'est ça aussi. La naissance de Jésus, c'est cette vérité qu'il est capable, et ça c'est la force de sa consolation, ça réside uniquement dans sa puissance à créer des changements. Dieu est capable de changer ce que la vie ne change pas. Dieu est capable de transformer, de renouveler ce qui naturellement ne se renouvellera pas. Le corps s'use, vous l'avez remarqué ? Votre corps s'use. Il y a des choses qui se renouvellent plus, c'est comme ça. On peut parler des forces physiques, on peut parler des neurones. À un moment donné, c'est terminé, ça ne se renouvellera pas. Mais dans la nature, c'est exactement la même chose. Tout ce qui est dans la création fonctionne sur ce principe. Mais quand je pense que Jésus est quand même capable de renouveler ce qui n'est pas renouvelable, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Je suis un peu dubitatif, j'ouvre une parenthèse, et ça n'engage que moi, bien évidemment. On est arrivé à la fin de la COP21. On est content, hein, parce que pendant 15 jours, on en a entendu parler. Alors, on a applaudi. Certains ont pleuré parce que 15 jours, c'était assez nerveux quand même, hein, pour arriver à cet accord. 195 pays, si je me trompe pas, ont signé l'accord et on est tellement content. J'espère que la montagne n'accouchera pas d'une souris. Parce que, bon, on verra dans quelques temps. Mais en tous les cas, tout le monde est à fond. On est capable d'avoir de bonnes intentions. Quant au renouvellement, quelquefois, c'est là-dedans que ça doit se passer. Et on ne sait pas trop si les bonnes intentions suffiront. Qui sera là dans 10 ans ? Qui sera là dans 20 ans ? De toute façon, c'est à l'aube de la fin du siècle. Donc, on verra bien. Qui sera encore là à la fin du siècle ? Moi, je ne pense pas que j'y serai, normalement. Je ne sais pas. En tous les cas, des intentions, on peut en avoir. Ça ne suffit pas forcément à renouveler. Ce que je veux dire, je ferme ma parenthèse, ce que je veux dire, c'est qu'avec Dieu, tout peut être renouvelé. Corps, âme et esprit peut être renouvelé. Et ça, c'est une parole de consolation pour vous. De la part de Dieu, ce matin, il est capable de vous faire du bien, de vous bénir. La chose suivante, nous la trouvons dans cette voix qui peut retentir dans notre cœur du verset 6 au verset 8. Une voix crie, une fois encore, et il répond : que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure, subsiste éternellement. C'est arrivé plusieurs fois que Jésus soit obligé de rassurer ses disciples en rappelant son autorité sur les éléments déchaînés. On peut parler des différentes tempêtes que les disciples ont connues. À un moment donné, Jésus les a rassurés. « N'ayez pas peur, je suis là, c'est moi. Soyez sans crainte, où est votre foi ?» À chaque fois que Jésus s'est trouvé quelque part, La situation n'était jamais mauvaise. Elle pouvait être difficile, mais jamais mauvaise parce que Jésus était là. Et quand bien même on perd des courages, Jésus transformait les situations. Jésus est capable de faire cela. Il est né, le divin enfant, et il est vivant aujourd'hui. Et il est encore capable de faire cela. Il est encore capable de bénir, il est encore capable de délivrer. Ça signifie, ni plus ni moins, que les démons ont été chassés, les maladies ont été vaincues. Il y a eu la croix qui nous rappelle que si tout sur la terre est et reste fragile et que la vie passe et que la vie passe très très vite, la vérité est que ce qui reste, nous le trouvons en Dieu et nulle part ailleurs. Ce que j'ai voulu mettre sur cette diapo, c'est que les ennemis ont été vaincus du temps d'Israël. Quand Ésaïe prophétise à Israël en disant « le malheur arrive », le malheur est venu et le malheur est parti et Israël est rentré à la maison. Ça veut dire que dans la vie, les ennemis viennent, puis les ennemis s'en vont. La vie, c'est comme une fleur. Elle est belle un jour et le lendemain, elle sèche et elle disparaît. C'est ce que Ésaïe est en train de déclarer. Il y a eu des moments difficiles, l'exil a été difficile, l'exil a été amer, mais il est terminé maintenant. Et on peut se réjouir parce qu'on est rentré à la maison. Finalement, on se rend compte que, d'une certaine manière, les changements dépendaient des hommes, mais dépendaient aussi de Dieu. Le retour a été stressant, il était assez incertain, on n'était pas très sûr de pouvoir rentrer à la maison, mais Dieu a suscité même des incroyants pour le bonheur du peuple d'Israël. Quand Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, roi de Perse, c'était pour bénir un peuple qui lui était totalement indifférent et étranger. Dieu est capable de faire des choses incroyables. Alors même si vous vous dites « j'ai l'impression que mon avenir est un peu incertain », les promesses de Dieu sont solides. J'aimerais vous dire que les promesses de Dieu sont solides et que certaines choses dépendent de nous, mais que tout, dans le fond, dans l'absolu, dépend de Dieu. Dans un psaume, le psaume 105, verset 8, il est dit « tes promesses sont solides ». Dans le psaume 119, verset 65, « tu me fais du bien selon ta promesse ». Psaume 119, verset 50, « ta promesse, ô Éternel, me rend la vie ». Et celui qui apparaît à l'écran, « mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse ». Quand Ésaïe prophétise, il promet de la part de Dieu. C'est une promesse, hein ? Il promet de la part de Dieu. Mais pour s'accrocher à cette promesse, il suffisait d'y croire. Mais il fallait rester dans la paix. Il fallait rester dans cette confiance absolue, la voie de la foi, la voie de la confiance. Je vois les choses qui ne me plaisent pas. Je vois la tempête autour de moi. Je vois que les choses me tournent mal. Mais Seigneur, je ne veux pas regarder ces choses-là. Je veux te faire confiance. Ce matin, faites-lui confiance. Parce que Noël est là. Ça fait 2000 ans qu'on célèbre Noël, mais ça fait plus de combien, 2700 ans que la prophétie a été rendue. La délivrance est là, elle est sûre, elle est réelle. Je terminerai sur cette troisième voie, la voie de la paix, qui proclame la victoire sur le diable, la victoire sur l'ennemi, qui proclame la liberté qui a été retrouvée et qui proclame le retour à la maison. C'est du verset 9 au verset 11. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix. Dans les deux paragraphes précédents, il était dit « une voix crie, une voix crie ». Et là, c'est un petit peu la même chose. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Dans ce même livre d'Ésaïe, au chapitre 52, il est dit qu'ils sont beaux. Sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. C'est exactement la même chose que l'on vient de lire là. Je crois que la voix de la paix, elle proclame que le diable a été vaincu. Et on va arriver à Noël. Et souvenez-vous, alors on ne sait pas s'il est né le 24, s'il est né le 4 janvier, on ne sait pas. Mais il est né dans cette période-là, c'est sûr. C'est sûr. En tous les cas, au moment de Noël, pendant tout ce mois-là de décembre, parce que les illuminations sont là pour nous le rappeler, voilà, on ne veut pas rester dans la magie de Noël. On veut rester dans la vérité et dans les promesses de Noël. Souvenez-vous de cela. Le diable a été vaincu. Vous entendez ? Votre ennemi, votre pire ennemi a été vaincu, il a été détruit, il a été totalement lié en quelque sorte dans ses projets et sa fin sera l'enfer pour l'éternité. Sa fin est déjà déclarée dans l'Apocalypse, c'est déjà mentionné. Ça signifie que si votre ennemi a été neutralisé, ça veut dire que la liberté, vous devez la retrouver. Si vous n'êtes pas libre, c'est que vous n'avez pas trouvé ce Jésus-là. Vous n'êtes pas encore proche de Noël. Il manque quelque chose. Dieu va vous faire un cadeau aujourd'hui. Il va vous donner la liberté. Il va vous rendre la liberté. Il va vous assurer de sa grâce. En quelque sorte, c'était le retour à la maison. Certains avaient de la difficulté à avancer. Eh bien, qu'à cela ne tienne, comme un berger, il prendra dans ses bras les agneaux et il les portera jusque en sécurité, comme un berger. Ça vous rappelle pas ces mots de Jésus également ? Je suis le bon berger. C'est pas pour rien qu'il a dit cela. C'est tout simplement en rapport à la prophétie. Parce que c'est exactement ce qui avait été annoncé qui s'est accompli quand vous regardez la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors laissez-vous porter et puis profitez de ce moment. Sentez la différence que Dieu peut apporter à votre vie. Vivez ce repos divin. Je crois que Noël, comme c'est écrit sur la dernière ligne, ça doit être la promesse d'une vie bénie. Une vie bénie, ça ne veut pas dire une vie où on ne touche plus les pieds sur la terre et que voilà, on n'a pas de problème. Mais ça signifie que quoi qu'il arrive, aucune épreuve, tentation ne nous survienne. Que Dieu ne voit, ne connaisse, ne permette. Et si c'est permis, ça veut dire qu'il nous donnera le moyen d'en sortir vainqueur. Il nous montrera la porte de sortie pour qu'on en sorte vainqueur. Alors que Dieu soit béni. Pour Noël, qu'est-ce que ça signifiera pour vous ce matin Noël ? Plaise à Dieu, que ça puisse parler à votre cœur, qu'une voix puisse crier à votre oreille que Dieu est un Dieu de consolation et qu'il faut lui faire confiance. Qu'il est le Dieu de la paix et que tout cela est devant vous. Vous n'avez qu'à le vivre, vous n'avez qu'à en profiter. C'est cela la liberté que procure l'Évangile. Relisez à la maison, parce que tout le chapitre 40 est intéressant. Relisez-le encore, méditez-le. Retenez quelques mots-clés, j'en ai choisi quelques-uns, en parlant du berger, en parlant de la délivrance, en parlant de la gloire de l'Éternel. Mais il y a d'autres versets tellement intéressants. Et nourrissez votre âme de cette vérité-là. Jésus est venu et pour nous la promesse arrive encore. Il est toujours le même, il ne change pas et il nous assure sa paix, sa grâce et son soutien en toutes circonstances. Amen. On se lève ensemble et on invoque Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te rendre grâce parce que ferions-nous sans toi ? Nous voulons te louer pour ta majesté, nous voulons te louer pour ta bienveillance, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore. Je prie que tu manifestes ta bienveillance et ton secours, que tu glorifies ton nom maintenant. Je prie que tu nous gardes et que si quelqu'un n'était pas totalement apaisé ce matin, j'espère que au travers de ce que nous avons partagé, ce cœur soit soulagé. Que ce cœur soit relevé, apaisé et que ta puissance de délivrance agisse dans sa vie et dans son être tout entier. Apporte la guérison, apporte la liberté, apporte la délivrance et glorifie-toi Seigneur. Merci de bénir ce spectacle de tout à l'heure. Merci pour ces dizaines d'enfants qui seront là. Nous aimerions que Noël représente la vraie joie, la vraie liberté, le véritable bonheur pour eux. et que Jésus soit, ne soit pas un être de fiction, mais devienne leur sauveur, leur Dieu qui est au ciel. Je prie vraiment que tu les bénisses et que tu leur fasses du bien. Merci de bénir tous ceux qui accompagneront ces enfants qui seront là et qui eux aussi n'ont pas fait la paix avec toi, qu'ils trouvent ce chemin tracé, cette voie plane, aplanie que tu as tracée pour les amener à toi, qu'ils te rencontrent et qu'ils soient bénis aussi. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen.